Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bamako, même heure partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition matinale à la une de l'actualité. Grève de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Le bureau exécutif de la centrale syndicale suspend toute négociation avec le gouvernement. Au même moment, la population lance un cri de cœur face à cet arrêt de travail. L'insécurité au sud et au centre a impacté de nombreux champs dans la région. Selon des sources locales, des centaines de champs n'ont pas pu être cultivés. Quelle alternative pour les personnes touchées? Éléments de réponse dans ce journal. Covid-19, l'annonce de vaccins contre la pandémie suscite de l'espoir. Toutefois, si certains sont sceptiques de son efficacité, d'autres saluent les efforts consentis. Point complet de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté, Mamadou Ouattara à la technique. La grève de 5 jours de l'UNTM se poursuit dans le pays. Dans un communiqué publié hier, le bureau exécutif de la centrale syndicale a annoncé avoir suspendu toute négociation avec le gouvernement. Selon ses responsables, cette décision a été prise suite aux propos menaçants et méprisants à l'encontre des syndicalistes tenus par le président de la transition à Abidjan. Cet arrêt de travail est suivi dans plusieurs localités et différents secteurs sont paralysés. Les populations tirent la sonnette d'alarme. Les détails avec Moussa Malé Sissoko.
À Banamba, région de Koulikoro, les agents des services de la santé et des banques ainsi que les surveillants de prison ont observé cet arrêt de travail. Au niveau de la radiographie du centre de santé de référence de la ville, plus d'une vingtaine de patients n'ont pas reçu de consultation ce mardi 15 décembre. Pourtant, ils avaient des rendez-vous avec des médecins, témoignent nos sources. Toujours dans le sud du Mali, à Sikasso, les activités tournent au ralenti. Sur place, des habitants de la ville dénoncent une situation inquiétante et intenable. Même constat au nord et au centre du pays. À Ansongo, région de Gao, le mot d'ordre de grève de l'UNTM est respecté par les militants. Parmi les services paralysés figure le centre de santé du Cercle. Beaucoup de Maliens reconnaissent avoir reçu des informations sur cette grève. Toutefois, à Bafoulabé, dans la région de Kaye, des habitants des villages environnants disent avoir été surpris par la fermeture des banques et caisses d'épargne de la place. Rappelons que c'est le deuxième mouvement de grève de l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM depuis l'installation du gouvernement de transition.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Plus de 1200 sinistrés et des dégâts matériels importants ont été enregistrés la semaine dernière dans la région de Tombouctou. Il s'agit des conséquences des inondations occasionnées par la montée du fleuve Niger, confirment les autorités locales. De Diokiré, dans le cercle de Goundam, en passant par la commune de Lafière, dans le cercle de Tombouctou, des milliers de récoltes ont été endommagées, affirment des élus locaux. Le pont avec Momine Sendebou.
Selon le maire de Diokiré, 433 hectares sur les 880 périmètres irrigués ont été ravagés par les eaux du fleuve. Une dizaine de villages se retrouvent inondés, affirme l'élu communal Younous Maïga. Selon l'autorité communale, les sinistrés ont été hébergés par des parents proches. Ces derniers sont en manque de tout, regrette-t-il. Des espaces de pâturage ont également été complètement détruits, se lamente le maire de la commune rurale de Douékiré. Le village d'Aglal, dans le cercle de Tombouctou, a aussi été touché par ces inondations. Sur place, plusieurs habitants et récoltes ont été touchées, affirment des sources locales. C'est la même situation à Kirchamba, une commune du cercle de Diré. Dans cette zone, plus de 29 maisons s'y sont effondrées et près de 80 hectares de champs engloutis par les eaux. C'est ce qu'affirment les autorités de la localité. Les mêmes sources rapportent qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée suite à ces inondations. Toutefois, les populations et autorités de ces zones disent être désespérées et craignent une crise alimentaire prochainement.
Je vous l'annonçais dans les titres. L'insécurité baisse la culture de riz au centre et au sud du pays. De centaines de surfaces cultivables n'ont pas été cultivées ces dernières années dans la région de Mopti et certaines localités de Ségou. Ces informations confirmées auprès des chambres d'agriculture de ces localités soulèvent certaines inquiétudes. Comment les paysans de ces localités vivent-ils aujourd'hui? Que faut-il faire pour subvenir à leurs besoins? Pourquoi les groupes armés empêchent-ils aux populations de cultiver leurs champs? Des éléments de réponse dans ce reportage de Draman Maïga.
Pour Sidibé Moussa, secrétaire général de la Chambre régionale d'agriculture de Mopti, plus d'un tiers des terres cultivables n'a pas été mise en valeur dans cette région à cause de l'insécurité.
Avec l'occupation de ces zones-là, les gens n'ont pas pu aller dans les champs pour travailler. Donc cela a baissé la superficie à enblaver et de façon qu'aujourd'hui, vraiment, on est dans un manque à gagner concernant la riziculture. Bref, selon une programmation totale, le tiers, voire même plus, n'a pas pu être mis en valeur à cause de l'insécurité.
Selon le Programme alimentaire mondial, plus de 190 000 personnes sont affectées par cette baisse de production dans les zones en proie à l'insécurité. Madame Sally Haydock, représentante et directrice pays PAM Mali.
En 2020, on a vu qu'il y avait une diminution de 20% des surfaces cultivées, surtout dans la région de Mopti. Comparé à 2016 et 2017, l'insécurité a fortement perturbé toute la saison agricole dans le plateau de Dogon. En tout, nous estimons que 192 000 personnes sont affectées par la diminution de surfaces cultivées parce qu'ils ont dû abandonner leurs champs suite au conflit.
Pendant ce temps, l'insécurité est de plus en plus grandissante au centre et partout dans le pays. Ainsi, la sécurité alimentaire continue d'être menacée.
Autre sujet, depuis ce lundi, des activités de sensibilisation sur les conséquences de la corruption sont en cours. Elles s'inscrivent dans le cadre de la semaine d'action contre la corruption au Mali lancée par la coalition des organisations de la société civile et le consortium RLD AFAD. À cette occasion, certains Maliens se disent favorables à ces séances de sensibilisation, d'autres en revanche pensent qu'il faut plutôt prendre des mesures juridiques. Aboubakr Aga Mohamedine Yattara nous en dit plus.
Cette activité intervient au moment où des organisations de la société civile décrit les phénomènes dans les pays. Selon le président de la coalition des organisations de la société civile chargée de la lutte contre la corruption, des chemins restent à parcourir pour mettre un terme au fléau. Souleymane Dembélé, président de la coalition de lutte contre la corruption au Mali.
Il y a des émissions radio et nous avons la production des articles. Nous avons aussi un jeu concours entre les slammers et surtout il y a des formations qui sont en cours à l'adresse de la presse. Pour qu'on n'est pas à Bamako, seulement dans les régions à Sikasso, c'est le débat sur la corruption, c'est des activités de sensibilisation en radio.
Du côté de la population, certains estiment que sans l'application de fortes mesures juridiques, les efforts resteront vains. Par contre, d'autres recommandent la sensibilisation.
L'éducation civique et morale, qu'on donne de l'ampleur mais de la valeur à la matière. Je crois que les enfants vont bien apprendre ce que c'est gagner dignement ce qu'ils doivent manger.
Moi, je pense que chacun doit se soumettre aux droits de ce pays.
Face à l'ampleur du phénomène, des observateurs estiment que les autorités doivent assumer leurs responsabilités pour l'endiguer. En attendant la prise de décision concrète contre l'enrichissement illicite, les acteurs de dessous des tables jouent aisément leur jeu et les victimes prennent leur mal en patience.
Santé à présent, les premières doses du vaccin contre la COVID-19 ont été développées par la société pharmaceutique américaine Pfizer et sa partenaire allemande BioNTech. Ce dimanche 13 décembre 2020, elles ont été administrées pour la première fois sur une infirmière aux États-Unis. Depuis, des dizaines de pays à travers le monde ont lancé leurs commandes selon les responsables de ces sociétés. Au Mali, les avis divergent quant à l'utilisation de ce vaccin. Si certains estiment qu'il permettra de vaincre cette pandémie du coronavirus, d'autres pensent le contraire. Écoutons leur réaction au micro de Sita Sidibé et Fatou Ndiaye.
Je n'hésiterai pas d'utiliser ce vaccin car il a été confectionné en Amérique. Du coup, j'estime que c'est efficace.
Je demanderai à mes connaissances d'utiliser le vaccin une fois son efficacité est confirmée.
Personnellement, ma famille et moi doutent toujours de l'existence du coronavirus.
Il faut que les autorités elles-mêmes fassent la première vaccination, puis suivront les citoyens lambda.
S'il y a un remède contre la COVID-19, c'est avec plaisir que je l'utiliserai.
J'aimerais bien utiliser le vaccin car il permettra d'éviter la propagation de la pandémie. Je demande à la population de l'accepter pour se protéger.
Moi je suis pour.
Et justement, faisons le point de la situation de la COVID-19 au Mali. À la date du mardi 15 décembre 2020, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 42 nouveaux cas positifs, 67 patients guéris et 4 décès. Ainsi, la situation cumulée est de 5878 cas confirmés, dont 3697 guérisons et 205 décès. À présent, place à notre rubrique Actu COVID présentée par Moumine Sendebo.
Le Premier ministre du Mali a effectué une visite de terrain lundi dernier dans les centres de prise en charge de COVID-19. Selon lui, l'objectif était de s'imprégner des conditions de travail du personnel de ces différentes structures. Mokhtar Wane a profité de cette occasion pour tenter de rassurer la population par rapport aux rumeurs sur la pénurie des tests PCR. Certains usagers préviennent toutefois qu'il est inadmissible d'évoquer un possible manque de kits de prélèvement. Reportage de Aïssata Diarra.
Au cours de la visite, le Premier ministre a déclaré que les dispositions seront prises pour pallier aux difficultés qui rencontrent les centres de prise en charge des COVID-19. Mokhtar Wane, Premier ministre.
Je suis heureux de remettre le matériel ici en appui aux efforts importants qui sont réalisés. Le gouvernement assurera le règlement de toutes les primes.
Le gouvernement veille à ce qu'il n'y ait aucune pénurie encore pour une dizaine de jours. Le stock est disponible. Et au moment où je vous parle, des commandes sont en cours de livraison.
Cet engagement ne rassure pas certains usagers que nous avons rencontrés à l'Institut national de santé publique. Ces derniers estiment que les conséquences d'un manque de tests PCR seront lourdes pour les pays.
Les kits de tests ne doivent en aucunement finir. Si les voyages d'affaires sont interrompus parce qu'il n'y a plus de kits pour faire le test, c'est vraiment inquiétant.
Les raisons personnelles peuvent être des urgences de voyage. Et si les kits sont arrêtés, ce voyage ne pourra pas se faire. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas de retour.
À signaler que du 1er au 14 décembre dernier, le Mali a enregistré 1074 nouveaux cas positifs et 41 décès selon les communiqués du ministère de la Santé.
Les responsables de la communauté chrétienne exigent depuis dimanche dernier le port obligatoire des masques dans les églises. La décision entre en vigueur à partir de la messe de ce week-end. Docteur Véronique Dambélé, membre du conseil paroissial, rappelle que des masques lavables ont été plusieurs fois distribués aux fidèles. Écoutons maintenant la question d'auditeur. Elle est répondue par le professeur Akori Ag Iknan, coordinateur national de lutte contre la COVID-19.
Bonjour professeur. Avec l'explosion du nombre de nouvelles infections à la COVID-19, envisagez-vous de fermer à nouveau les frontières?
Ça, c'est des mesures qui sont prises exclusivement par le Conseil supérieur de la défense. C'est lui qui va statuer sur les mesures à prendre, quelles sont les avancées que nous avons et quelles sont les mesures que nous devrions prendre pour protéger encore plus nos populations.
Rappelons qu'à ce stade, le Conseil supérieur de la défense ne s'est pas encore prononcé sur la question. C'est ce qui boucle ce numéro d'actif COVID pour vous protéger de la maladie. N'oubliez pas de suivre les conseils des médecins.
Studio Tamani. Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
8 heures passées de 12 minutes, c'est la fin de cette édition, mais vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. Restez à notre écoute, dans quelques minutes, ce sera la version Bambara de cette édition, une présentation de Aïssata Diarra, mais avant tout de suite, le magazine.